les cathares, les purs. Le catharisme se répand dans tout le sud-ouest au XIIe et XIIIe siècle. Pourquoi les cathares attirent-ils ainsi les foules? Cathare, en grec, signifie « pur ». Si le catharisme naît, c'est qu'il y a de l'impur dans l'air, et même sur terre, surtout, en ce Languedoc des années 1170 où la conduite du clergé se révèle désastreuse. Beaucoup de prêtres se livrent à toutes sortes d'excès et de débauches. L'implantation des cathares, des purs, se fait sans difficulté. D'autant plus que cette religion chrétienne, mais pas catholique, donc hérétique, offre de séduisants aspects. Se fondant sur les évangiles, et particulièrement sur celui de Saint Jean, et rejetant l'Ancien Testament, le catharisme permet à chacun de vivre sa vie comme il l'entend. Et pour quelle raison? Et de quelle façon? Il suffit d'écouter les explications de ceux qui se nomment eux-mêmes dans l'hérésie cathare les bons hommes. Et que disent-ils, les bons hommes? Ils disent qu'il n'y a pas qu'un Dieu, il y en a deux. Et ces deux dieux se livrent un combat quotidien acharné. Qui sont-ils, ces deux dieux? Il y a celui qui est bon et qui sauve les âmes, il est éternel, il est invisible. Et puis, il y a le dieu mauvais, celui du visible, du temporel, du corruptible, le tentateur, celui qui dévoie, qui pousse à toutes sortes de fautes. L'homme est à la croisée de ces deux créations. Sa part divine, éternelle, composée de son esprit et de son âme, et sa part matérielle, périssable, faite de chair et de sang, ce corps soumis aux désirs et à tous les désordres qu'il engendre. En conséquence, les écarts de conduite dus aux mauvais penchants sont jugés avec bienveillance par les prédicateurs, les bons hommes, qu'on appelle les parfaits. Ils savent, eux, les parfaits, que la terre, c'est l'enfer. Ces bons hommes, ces bons chrétiens, les amis de Dieu, s'en vont par deux dans les campagnes, dans les châteaux ou dans les villes, vêtus d'une soutane de bure noire, ceinturés d'une corde blanche, accueillis à bras ouverts. Le régime parfait. Les parfaits, même s'ils sont nobles, doivent vivre du travail de leurs mains. Ils exercent des métiers artisanaux. Ils doivent être humbles, pauvres, charitables. Les mots « vulgaires » ou « blasphémateurs » sont bannis de leur vocabulaire. Sur le plan sexuel, abstinence totale. Leur nourriture? Jamais de viande, car elle provient d'un acte procréateur, elle est donc impure. Pas de lait, de fromage, d'œufs. Seul le poisson est autorisé car on croyait à l'époque qu'il était asexué. De plus, les parfaits, s'ils sont menacés ou attaqués, n'ôtent jamais la vie, même en cas de légitime défense. Les simples fidèles ou croyants ont à leur disposition un programme moins parfait, plus humain. Ils peuvent manger de la viande. Ils ont l'autorisation d'avoir des enfants autant qu'ils le veulent. Ils peuvent tuer pour se défendre. À l'approche de la mort, s'ils veulent entrer dans la lumière éternelle, il leur faut au plus vite rencontrer un parfait qui va leur administrer le seul sacrement cathare, le consolamentum ou consolament. Ce consolamentum, en un clin d'œil, lave toutes les fautes commises, et l'âme, plus blanche que blanche, transparente comme l'eau claire, peut s'installer dans le silence éternel des espaces infinis pour toute l'éternité, au moins. Évidemment, l'Église de Rome, pape en tête, ne supporte pas ces hérétiques ascètes, les parfaits, dont on dit que les fidèles se livrent à toutes sortes de débauches, puisqu'ils savent que juste avant la mort, tout est absous par le consolament. Et tout le midi semble si accueillant à cette hérésie qu'elle pourrait progresser au-delà du supportable pour Rome et le roi de France. Mais pas pour le roi d'Angleterre, avec qui les comtes de Toulouse envisagent un rapprochement. Cela ne peut plus durer. Innocent III envoie un message à Philippe Auguste, qui refuse de s'occuper de l'affaire. Alors, le pape très chrétien envoie, en 1207, une lettre à ses évêques résidant en zone cathare. Il les informe qu'il va se passer du roi de France en organisant une croisade, afin de reconquérir les régions dissidentes. Il s'agit donc tout simplement d'effectuer un énorme hold-up sur le Languedoc, puisque le pape promet que les terres dont s'empareront par la force les croisés, d'où qu'ils viennent pour tuer l'hérésie, leur appartiendront. Incroyable commandement d'un chrétien contre les chrétiens. De terribles massacres se préparent. C'est la guerre des gens du nord, les croisés, contre ceux du sud. Les nordistes composent une foule des plus disparates. Ce sont surtout de petites gens attirés par un enrichissement facile, des mercenaires, des brigands, des aventuriers, des bourgeois aussi, des aristocrates et des militaires. Leur chef est Simon de Montfort, un organisateur exceptionnel, un soldat plein d'audace, mais un sanguinaire accompli. En juillet 1209, il lance ses troupes sur la ville de Béziers qui est vaincue. Toute sa population est massacrée. Avant l'assaut, les croisés viennent demander au légat du pape comment reconnaître dans la ville un cathare d'un nom cathare. Celui-ci leur répond, ou leur aurait répondu, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Puis c'est le tour de Carcassonne, du Quercy, de Lagenais, de Muret, et enfin de Toulouse où, en juin 1215, Simon de Montfort fait son entrée, alors que Raymond VI, le comte de Toulouse, s'est réfugié en Angleterre auprès de Jean Santerre.